Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, en ce dimanche 11 avril 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran a désormais 7 provinces nucléaires. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission, merci de votre écoute. Bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, a signalé un incident dans une partie du réseau de distribution d'électricité des installations d'enrichissement de Natanz. La cause de l'incident est sous enquête. Les négociations se poursuivent jusqu'à ce que les revendications de l'Iran soient satisfaites, déclaration depuis Téhéran. Et puis, nouvelle attaque de drones de l'armée yéménite contre des cibles au sud de l'Arabie saoudite. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique OIOA a signalé un incident dans une partie du réseau de distribution d'électricité de l'installation d'enrichissement de Natanz et a déclaré: la cause de l'incident est sous enquête et des informations complémentaires seront annoncées ultérieurement. Behrouz Kamalvandi, le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, affirme que l'incident a affecté une partie du réseau de distribution d'électricité de Natanz. Selon M. Kamalvandi, l'incident n'a fait aucune victime ni contamination et fait l'objet d'une enquête. L'incident est survenu un jour après que l'Iran a démarré plusieurs cascades de centrifugeuses avancées dans l'installation. L'année dernière, une explosion a frappé une chaîne de centrifugeuses à Natanz, ce que l'Iran a qualifié d'acte de sabotage. Le chef du nucléaire iranien Ali Akbar Salehi a imputé l'explosion aux ennemis. L'ancien ministre israélien des Affaires militaires, Moshe Yaalon, a déclaré qu'il espérait que personne en Israël n'assumerait même implicitement la responsabilité de l'incident dans Natanz. Yaalon dit que ce sont des choses pour lesquelles le silence est toujours le bienvenu. L'incident est survenu un jour après que l'Iran a démarré plusieurs cascades de centrifugeuses avancées dans l'installation. De plus amples informations seront communiquées ultérieurement, ajoute le porte-parole de l'OIOA. Le premier ministre sud-coréen Chun Sei-kyun est arrivé à Téhéran ce dimanche et a été reçu par le ministre iranien des routes et du développement urbain Mohamed Eslami. Le premier ministre sud-coréen est arrivé en Iran pour une visite de 3 jours. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, il doit discuter avec de hautes autorités iraniennes des moyens d'améliorer les relations bilatérales et d'autres questions d'intérêt commun. Il s'agit de la première visite d'un premier ministre sud-coréen en 44 ans. Au menu de son déplacement à Téhéran, des rencontres avec le président de la République islamique d'Iran Hassan Rouhani, le premier vice-président Issar Jahangiri, le président du Parlement Mohammad Borel Golibov et Ali Larijani, conseiller du leader de la révolution islamique. En outre, le premier ministre sud-coréen devrait rencontrer des responsables d'entreprises sud-coréennes opérant en Iran, notamment Samsung, LG et SK Networks. Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, avait précédemment annoncé que Chung Siu-kyung rencontrera lors de son voyage à Téhéran des responsables de la République islamique d'Iran pour discuter en particulier des fonds iraniens d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars bloqués par la Corée du Sud sous prétexte des sanctions américaines. L'Iran affirme que le plus grand obstacle à la reprise de l'accord sur le nucléaire de 2015 est la réticence de Washington à lever les sanctions imposées par l'ancienne administration américaine. Abbas Araghchi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, à la tête de l'équipe négociatrice à Vienne, a déclaré que les États-Unis doivent mettre fin à toutes les sanctions qu'ils ont imposées, réimposées ou réétiquetées après leur retrait unilatéral de l'accord sur le nucléaire iranien. Abbas Araghchi a souligné que l'Iran ne reviendra sur ses engagements nucléaires qu'une fois que toutes les sanctions soient levées de manière vérifiable. Le diplomate de haut rang a fait ses commentaires dans une interview avec le radiodiffuseur public japonais NHK. Cette semaine, il a présidé les pourparlers de l'Iran avec les signataires restants de l'accord nucléaire à Vienne, visant à remettre le pacte international sur les rails. Pour Téhéran, la reprise n'est possible que si et seulement si les États-Unis respectent leurs obligations stipulées dans l'accord approuvé par l'ONU. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie nucléaire, OIOA, a déclaré que l'Iran est devenu fabricant et exportateur de produits radiopharmaceutiques. Ali Akbar Salehi a décrit la fabrication d'installations médicales comme l'une des réalisations importantes de l'Iran dans le domaine de la technologie nucléaire. Monsieur Salehi a fait ses remarques à l'occasion de la Journée nationale iranienne de l'énergie nucléaire pacifique. L'infrastructure nucléaire est minutieusement conservée et si les hautes autorités iraniennes confient quelque chose aux responsables de l'industrie nucléaire du pays, des grands exploits seront réalisés dans un court laps de temps, a encore déclaré le chef de l'AIOA. Téhéran considère que la technologie nucléaire est vitale pour la science médicale du pays. Ali Akbar Salehi a noté que l'organisation nucléaire iranienne a fourni une centrifugeuse pour la production du vaccin national COVID-19, Barakat, et a mis au point une autre centrifugeuse dédiée à une banque de sang. Le titane est un autre composant également produit en Iran, vital pour l'implantation des dents et la réparation du corps humain. L'Iran est le principal exportateur de radiocomposés médicinaux vers l'Inde, le Liban, l'Irak et un certain nombre de pays européens. La COVID-19 emporte 258 autres vies en Iran, 21 000 nouveaux cas. L'Iran confirme ce dimanche plus de 21 600 cas de contamination au COVID-19 au cours des 24 dernières heures, alors que le pays est aux prises avec une quatrième vague de pandémie. Samedi marque le quatrième jour consécutif où les nouveaux cas de contamination s'établissent autour de 20 000. Le ministère iranien de la Santé a confirmé 258 nouveaux décès liés au COVID au cours des 24 dernières heures depuis hier. 2780 personnes ont été hospitalisées. Le nombre total de patients iraniens touchés par la COVID-19 dans le pays atteint désormais plus de 2 070 000 personnes. Selon la porte-parole du ministère de la Santé, jusqu'à présent, plus d'1 710 000 patients se sont rétablis ou sont sortis de l'hôpital. En outre, près de 4 400 patients atteints de COVID-19 sont admis en soins intensifs et se trouvent dans un état grave. À ce jour, près de 13 680 000 tests diagnostiques de COVID ont été réalisés dans le pays. La pandémie est dans l'une de ses phases les plus meurtrières depuis qu'elle a frappé l'Iran. La hausse est imputée à des souches plus contagieuses du virus et aux déplacements effectués à l'occasion du nouvel an iranien. Cela a incité le gouvernement à imposer un verrouillage de 10 jours dans 80% des villes iraniennes. L'actualité, c'est également le Yémen. L'armée yéménite affirme avoir mené de nouvelles frappes de drones avec succès contre des cibles dans le sud de l'Arabie saoudite. Le porte-parole de l'armée yéménite, Yahya Sari, a déclaré que les frappes visaient des hangars militaires à l'aéroport de Jizan et à la base aérienne du roi Khalid, près de la ville de Khamis Mouchaït. Il a déclaré que deux drones KSF-K2 avaient été utilisés dans l'opération en réponse à l'agression de l'Arabie saoudite et au blocus continu visant le Yémen. Pendant ce temps, la coalition d'agression menée par l'Arabie saoudite a déclaré qu'elle avait intercepté et détruit un drone yéménite chargé d'explosifs se dirigeant vers Khamis, toujours Mouchaït. L'Arabie saoudite et ses alliés ont lancé une guerre meurtrière contre le Yémen depuis mars 2015 pour y établir un régime fantoche. Les forces yéménites poursuivent leurs frappes de représailles pour forcer Riyad à mettre fin à son agression et à son blocus qui a fait du Yémen le pays le plus pauvre du monde. Enfin, au moins 6 civils ont été tués et 7 autres blessés dans un attentat suicide à la bombe dans l'état régional de Baï, dans le sud-ouest de la Somalie. Au moins 6 personnes ont été tuées et 7 autres blessées après qu'un homme armé s'est fait exploser samedi à l'entrée d'un salon d'été à Bayouda, en Somalie, selon la police, pour qui l'opération visait le gouverneur régional. La police a déclaré que l'attaque visait le gouverneur régional qui se trouvait à l'intérieur du salon d'été. Le gouverneur a survécu à l'attaque presque indemne. Parmi les 7 blessés, qui sont pour la plupart des civils, figurent 2 de ses gardes du corps, dont l'un a été grièvement blessé, a ajouté le policier. Les terroristes d'Al-Shabaab liés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque dans un court message posté sur un site affilié à leur mouvement et confirment que la cible de l'attaque était le gouverneur. Le groupe se bat pour renverser le gouvernement fédéral somalien depuis 2007. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. À 7 provinces nucléaires. Les IR6, IR5 tournent à plein régime à Natanz. La République islamique d'Iran a précédemment informé l'Agence internationale de l'énergie atomique, IOA, de son intention de stimuler les opérations d'enrichissement. Tout comme dans d'autres domaines, les sanctions nucléaires vont s'effondrer, a affirmé le commandant en chef de la défense passive, le général Jalali, qui a ajouté « À vrai dire, les ennemis n'ont plus d'autre choix que d'admettre un Iran nucléaire et puissant. » Au fait, la campagne de pression maximale qui a été la dernière cartouche des Américains contre les capacités nucléaires de notre pays a échoué. Les sanctions vont finir par briser en 1000 morceaux. Plus loin, le commandant en chef de la DCA passive iranienne a souligné la nucléarisation de 7 provinces iraniennes et le fait que le nucléaire a déjà pénétré le secteur de la santé et la sécurité. À l'occasion du 15e anniversaire de la Journée nationale de la technologie nucléaire, l'Iran a mis en service de nouvelles centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. Le président iranien Hassan Rouhani a officiellement inauguré les cascades de 164 centrifugeuses IR6 et 30 appareils IR5 à l'usine de l'enrichissement d'uranium de Natanz. Une chaîne de 164 centrifugeuses IR6 a été lancée aujourd'hui et cette chaîne peut nous fournir 10 fois plus de produits que la chaîne précédente. Cela signifie que les centrifugeuses précédentes étaient à 1 UTS, ou unité de travail de séparation, et cette nouvelle série est de 10 UTS. Aujourd'hui encore, nous avons atteint la centrifugeuse IR9 d'une capacité de 50 UTS en termes de technologie, a noté le président. Dans une autre partie de ses propos, le président iranien a réaffirmé « Les produits radiopharmaceutiques sont l'un des produits utilisés pour le diagnostic et sont très importants en médecine. » Toujours lors de cette cérémonie, le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, Ali Akbar Salehi, a également déclaré qu'en dépit de toutes les restrictions et sanctions, divers projets dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire ont été réalisés. Il a ajouté que 133 réalisations dans divers domaines de l'industrie, de la santé et de l'agriculture ont été introduites dans ce secteur. Monsieur Salehi a nommé la fabrication de centrifugeuses requises par le centre de transfusion sanguine, la production industrielle de titane de qualité médicale, utilisée dans la fabrication d'implants dans le corps humain et la production de plusieurs nouveaux radiomédicaments, comme les réalisations obtenues.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait nous attarder sur l'échec, la défaite de la stratégie américaine tant en Irak qu'en Syrie. Vous en souvenez, lorsque les Américains voulaient lancer cette guerre contre l'Irak, ils prétendaient que l'objectif en est d'apporter la sécurité pour le peuple irakien. Mais dans l'état actuel des choses, c'est la présence militaire américaine en Irak qui est devenue en fait la principale source d'insécurité et d'instabilité dans le pays. Le peuple irakien exige fermement le départ des troupes américaines d'Irak. Il y a eu une loi qui a été votée par le Parlement irakien qui exige en fait le retrait, le départ des forces américaines d'Irak. Et ces derniers temps, en fait, les attaques contre des convois militaires américains en Irak se sont multipliées, ce qui est, si vous voulez, un signe évident de ce mécontentement que du peuple irakien de la présence militaire américaine sur le territoire irakien. Même chose pour la Syrie. Cette présence militaire américaine en territoire syrien est considérée comme illégale et illégitime tant au niveau, si vous voulez, des dirigeants du pays qu'au niveau de la population du pays. Les Syriens, si vous voulez, sont contre de cette présence militaire américaine en territoire, si vous voulez, syrien, une présence qui est considérée comme je viens de vous le dire, en fait, comme étant illégale et contraire au droit international parce que cette présence s'effectue sans l'aval du gouvernement syrien. On va vous en parler avec deux des invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité. C'est toujours un plaisir.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est une analyste de franco-syrienne qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci de l'invitation, merci à Monsieur Develet et à vous-même, bien sûr.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Madame Midani, je viens de lancer le sujet désormais en fait de cette politique, cette approche de syrienne et irakienne de Washington est un constat de d'échec. Les événements qui se produisent en fait sur le terrain, tant en Irak qu'en Syrie, au niveau des dirigeants, des hommes politiques, et surtout au niveau de la population, des populations de syriennes et irakiennes, le démontre en fait d'une manière en fait claire et nette. Madame Midani, non seulement il y a ceux en Irak et en Syrie sont nombreux d'ailleurs, qui disent que voilà, cette politique est désormais un constat d'échec. Des voix s'élèvent désormais, même à l'intérieur des États-Unis, qui disent que voilà, qu'est-ce que nous avons fait, si vous voulez, en Irak, en Syrie, qu'est-ce que cela a rapporté, si vous voulez, aux des Américains, cette présence militaire américaine en Irak, en Syrie, Madame Midani.
En fait, ces agressions militaires répétées des États-Unis contre les peuples de la région n'ont provoqué qu'une profonde haine des États-Unis par les peuples. Ajouté au fait que les crimes qui sont commis, ils sont d'une telle violence et d'une telle arrogance que, en fait, maintenant, ça fait vraiment l'unanimité contre eux. Alors, effectivement, après avoir... Alors, je voudrais quand même rappeler le vil assassinat du général Qassem Soleimani et du grand scientifique Fakhri Zadeh et aussi l'ensemble des agressions contre la population syrienne, contre la population irakienne. La collaboration des Américains, des forces américaines avec les terroristes de Daesh, et à chaque fois que Daesh est défait, il les renforce et il leur envoie des renforts en des munitions, des armes, même ils continuent à recruter. Donc il les protège. Il est clair que maintenant, c'est au vu et au su du monde, il les protège. Au vu et au-dessus du monde aujourd'hui aussi, ils pillent le pétrole syrien, ils pillent le grain syrien, en fait, que ce soit du blé, des céréales, même le coton. Ils sont en train de commettre des exactions contre la population par l'intermédiaire de FDS, la Qassad, qu'ils soutiennent et qu'ils renforcent aussi. Ils sont en train de pousser la population de Hasaké à l'exil. Ils ont commis plein d'exactions aussi contre la population irakienne. Aujourd'hui, la résistance irakienne remporte de très grandes victoires. Et ils ont quand même essayé de tuer le responsable. Ils ont tué le responsable Abu Mahdi al-Muhandis aussi. Qui était aux côtés de général Qassem Soleimani, le responsable de la résistance. Tout ceci n'a fait qu'attiser non seulement la haine, mais aussi la détermination de la population, du peuple syrien, du peuple irakien et de l'ensemble des peuples de la région à vouloir mettre les Américains dehors, d'autant plus que leur collaboration avec les sionistes, l'occupant israélien, Elle est évidente, hein, et donc elle est pas seulement évidente, ils n'arrêtent pas de l'affirmer à chaque fois. Et c'est un état d'occupation, c'est un état qui est étranger à la région. Il ne sera jamais intégré, en fait, cet état d'occupation israélien, malgré les pressions de Trump pour l'intégrer en faisant des relations avec Bahreïn, avec les Émirats Arabes Unis, avec l'Arabie Saoudite. C'est pas avec l'État, mais c'est avec juste quelques personnalités du pouvoir de ces endroits, enfin de ces États, et qui sont quand même aussi complètement désapprouvés par les populations, par les peuples. Aujourd'hui, je peux dire aussi en Syrie, la collaboration américaine et avec Erdogan, qui est en train aussi d'occuper et de piller les richesses de la Syrie, qui est en train même de piller les richesses archéologiques, qui est en train de turquiser les différents villages et turquiser, c'est-à-dire ils imposent la langue turque pour travailler. Ils imposent la langue turque dans les écoles, ils imposent la monnaie turque, ils imposent les radios turques, etc. Tout ceci ne fait qu'augmenter la colère du peuple syrien, ajouter aussi à l'embargo étouffant, au blocus étouffant qui aujourd'hui affame le peuple syrien et le fait mourir de froid. Tout ceci fait monter effectivement non seulement la tension, fait monter la haine contre l'Américain, contre l'occupant turc dans la région. Et donc, par conséquent, la résistance populaire augmente avec aussi et se range du côté de l'armée syrienne pour défendre le pays et pour pousser tous ces occupants non seulement illégitimes qui agressent la souveraineté de la Syrie, qui agressent le peuple syrien, qui agressent les richesses de la Syrie et qui la pillent dehors. Donc en fait, aujourd'hui, le maître mot, c'est Yanki Goro.
Merci. J'ai beaucoup de maîtres de voler. Madame Midani estime que l'assassinat du commandant de la de résistance, le général martyr Soleimani et Abu Mahdi Mouandès, chef adjoint de Hashd al-Shaabi, des unités de la mobilisation populaire d'Irak, et également les crimes commis par les troupes américaines contre, si vous voulez, les Irakiens et les Syriens, n'ont eu d'autre résultat que d'attiser la résistance anti-occupation, d'attiser la haine, comme pour reprendre l'expression de Mme Midani, la haine contre les États-Unis, contre les occupants américains, la haine des Irakiens et des Syriens contre les occupants américains. Est-ce que vous partagez cette analyse, maître de Volley?
Oui, absolument. D'autant plus que, comme vous le savez, même si la perte de ces deux commandants a été de manière ressentie de manière traumatisante, il faut savoir que structurellement, et à l'instar de ce qui pouvait avoir lieu à l'époque de l'Empire perse, quand un commandant tombe, il y en a 10 000 derrière qui se lèvent. C'est pour vous dire que c'est l'esprit de la résistance qui prédomine dans la région. Et les gens sont maintenant mobilisés plus que jamais à expulser les Américains et leurs affiliés de la région. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'autre côté, ils sont dans une fuite en avant, que d'ailleurs l'ancien envoyé spécial Jim Jeffrey a lui-même, si je peux dire, dévoilé ces derniers jours, puisqu'il a lui-même déclaré que le chef de Al-Nosra, le Al-Jolani, devait faire l'objet d'une réhabilitation et qu'en fait, ils avaient collaboré avec Al-Qaïda depuis des années. Donc maintenant, le secret polichinelle est complètement exposé. Pour ce qui concerne la présence américaine illégale dans le nord-est de la Syrie, cela correspond à cette doctrine Jeffrey qui consiste à, entre autres choses, créer un état de bourbier pour la Russie, maintenir ce qui s'apparente à un siège médiéval sur la Syrie et financer les opérations de déstabilisation au travers de la réactivation des cellules terroristes en pillant effectivement le pétrole qui, dont on sait, n'est pas en soi quelque chose que les Américains font un profit, mais qui leur permet de financer leurs opérations au travers d'un trafic qui passe par le Kurdistan irakien et qui finit en Turquie. Donc tout ça sous couvert, bien sûr, d'une société américaine écran, qui est elle-même, qui a été montée par des anciens mercenaires des forces spéciales américaines et des affiliés de l'ancienne administration Bush. Cela, malheureusement pour eux, ne va pas stratégiquement mener où que ce soit, puisque plus que jamais maintenant dans le Al Jazeera syrien, les tribus se mobilisent, sont en train de se former au mode de résistance, de façon à créer une espèce de guerre asymétrique, de harcèlement, puisque le droit international, de toute façon, leur donne le droit de défendre leur pays et de libérer leur zone. Et dans ce contexte-là, il est actuellement mis en place des protocoles, non seulement au niveau des tribus, mais aussi au niveau des forces associés, alliés à l'armée syrienne pour probablement commencer à pilonner maintenant les Américains, puisque de toute façon, ce pillage systématique, c'est pratiquement quotidien maintenant. On a des dizaines de camions américains qui quittent, remplis de pétrole, remplis de blé. C'est une situation inacceptable, intenable, et qui appelle une résistance renforcée. Pour ce qui est de la situation en Irak, vous l'avez souligné en ouverture, le Parlement irakien, suite d'ailleurs à l'assassinat de Soleimani et Al-Mohandes, a passé cette loi demandant le départ le plus rapide possible, immédiat dans l'absolu des Américains. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu un changement au niveau du poste de Premier ministre en Irak et il est à se demander si l'occupant du bureau du Premier ministre actuel n'est pas en décalage total avec la volonté populaire de voir les Américains partir. Les Américains, eux, le sentent bien, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi on a eu cet accord en Jordanie récemment signé le 16 mars dernier, alors même que le Parlement jordanien n'a pas été consulté, qui consisterait pour les Américains à pouvoir disposer de toutes les manœuvres possibles au niveau de l'accumulation de leurs forces dans ce pays, alors même que, encore une fois, les intérêts du peuple jordanien ne sont pas du tout servis par cette situation. Les Américains essayent de changer, d'ajuster, si je puis dire, leur positionnement tactique, mais tous les peuples de la région maintenant chantent d'une seule voix, qui est celle d'expulser les Américains et leurs alliés et de mettre un terme, une fois pour toutes, à toute opération de déstabilisation. Et l'OTAN travaille en la faveur de la résistance et de ses alliés.
Madame Emidani, de mettre de volée, d'insister sur ce point que voilà, tous les peuples de la région exigent désormais, si vous voulez, le départ de forces américaines, exigent la fin de la présence militaire américaine dans la région. Autrement dit, maître de volée, en fait, insiste sur cette prise de conscience au niveau des populations. Vous vous en souvenez, lorsque les Américains voulaient agresser l'Irak, ils disaient que voilà, ils imaginaient qu'ils seraient accueillis, si vous voulez, à Bagdad, capitale irakienne, comme les sauveurs, comme les libérateurs. Même chose pour la Syrie également, mais maître de volée, en fait, souligne ce point qui est en fait solide de cette prise de conscience, si vous voulez, au niveau des populations. Madame Midani, ça aussi, c'est un élément important, n'est-ce pas?
C'est un élément crucial. Effectivement, la résistance populaire grandit et il y a de plus en plus d'opérations contre les soldats américains et contre ceux qui collaborent avec les Américains, qui sont les Qassad, en fait. Il y a tous les jours des attentats contre eux. Il y a tous les jours des attaques, mais aussi parce qu'ils ont attaqué systématiquement la population et dans sa chair et dans ses biens et dans ses donc les gens commencent à résister. Ça, c'est un point qui est très important. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi que la population, le peuple syrien, le peuple irakien sont des peuples comme le peuple libanais, le peuple palestinien et yéménite. Ce sont des peuples qui ne plient pas et qui ne déclarent pas forfait, même face aux agresseurs les plus horribles. Et en fait, les Américains sont effectivement des agresseurs horribles, de la même manière que les Israéliens. Mais donc, ils ne baissent pas les bras et au contraire, maintenant, ils doublent de détermination et ils doublent aussi de courage et en fait ils sont de plus en plus victorieux et de plus en plus ils opèrent de plus en plus des actions victorieuses contre les pas seulement les Américains d'ailleurs et tous leurs alliés dans la région qui sont aussi je voudrais citer aussi les États de l'OTAN. Parce qu'il y a aussi une présence française, une présence allemande, une présence anglaise dans la région. Donc aussi, ils sont sous le couvert et sous le vocable les alliés américains ou la coalition dirigée par les Américains. Donc en fait, tous ceux-là sont des occupants, sont des colonialistes anciens ou nouveaux, et ils sont toujours en train de convoiter les richesses des pays autres que les leurs, pour les piller. Et donc ça, c'est la prise de conscience du peuple syrien et irakien. En fait, après ces 10 années de guerre, voire pour l'Irak, ces 30 années de guerre, ils sont déterminés à mettre tous les Américains dehors. Je voudrais dire aussi que ça a été une grande décision de l'ensemble des pays du front de la résistance. C'était la bataille de cette année vise à mettre effectivement l'ensemble des forces américaines hors de la région de l'ouest de l'Asie. Donc de toute cette région, les Américains et leurs alliés doivent être mis dehors, leurs alliés occidentaux, agresseurs, etc. Donc ça, c'est effectivement, nous continuons à résister, nous continuons à nous battre sur tous les plans, mais aussi bien sur le plan militaire, mais aussi beaucoup sur le plan politique. Il faut aussi savoir que les Américains sont très isolés mondialement aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de...
Merci.
De partout, ils sont haïs. Ça, c'est aussi un point très important, sachant qu'on a aussi des alliés importants comme l'Iran, comme la Chine, comme l'Inde, la Russie, et bien sûr, la Russie agit avec nous aussi en Syrie contre tout ce qui est illégitime et contre
Merci
tout ce qui est illégal.
Merci beaucoup, Maître de Volley. Une dernière question. Nous avons 2-3 minutes devant nous. Et selon Mme Emidani, c'est en fait la présence militaire de l'OTAN dans la région qui est remise en cause. En fait, l'exigence est celle de réclamer le départ non seulement des Américains, mais également de l'OTAN de la région, Maître de Volley.
D'autant plus que l'OTAN n'aurait normalement jamais dû persister après la chute du mur de Berlin. La raison d'être de l'organisation militaire nord-atlantique étant à l'époque justifiée pour protéger l'Europe occidentale des chars soviétiques. Donc cette organisation aurait dû disparaître en même temps que, et à la limite, le 25 décembre 1991, lorsque le secrétaire général Gorbatchev avait prononcé la dissolution de l'Empire soviétique. Or, il n'en a rien été. Dès 1992, il y a eu un white paper qui a été publié, qui a laissé ouvert la mission otanesque de manière diffuse et floue, de façon à pouvoir ensuite l'utiliser comme un instrument pour s'ingérer dans les régions du monde, ici et là, au gré des intérêts occidentaux bien compris. Nous arrivons maintenant à une situation terminale où les États-Unis utilisent l'OTAN et donc, ce faisant, entraînent les membres entiers de l'organisation dans des missions complètement farfelues et qui ne répondent à rien aux intérêts des peuples de l'Occident, avec le risque, malheureusement, d'une escalade, puisque récemment, l'OTAN vient d'annoncer que le simple fait d'une attaque cybernétique pourrait constituer une invocation, un motif nécessaire pour l'invocation du fameux article 5 qui permet à un membre de l'Alliance de pouvoir compter sur tous les autres.
Merci.
Mais cette opération est très, très dangereuse et on le voit d'ailleurs en ce moment aussi en mer Noire et en Ukraine orientale.
Merci infiniment, Maître Arne De Volley, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Remidani, analyste franco-syrienne, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Le chef de l'armée algérienne, Saïd Tchengriha, a sollicité l'assistance de Paris pour la réhabilitation des sites des essais nucléaires français au Sahara il y a 60 ans lors d'une rencontre avec son homologue français, le général François Lecointre, jeudi à Alger. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Rebda ANP, a reçu le général Lecointre au cours d'un déplacement non annoncé avant la visite prévue du Premier ministre français Jean Castex à Alger. À l'occasion de l'entretien, le général de corps d'armée algérien a évoqué la problématique liée à la réhabilitation des deux anciens sites des essais nucléaires français Ad Regan et Inek Iker dans le sud du pays, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale cité par l'Algérie Presse Service. Alger considère que la France doit assumer ses responsabilités historiques et décontaminer les sites des essais nucléaires effectués dans le Sahara algérien dans les années 1960. Le dossier des essais nucléaires est l'un des principaux contentieux mémoriels entre Alger et Paris. Je tiens à évoquer la problématique des négociations au sein du groupe algéro-français au sujet des anciens sites d'essais nucléaires et des autres essais au Sahara algérien, où nous attendons votre soutien lors de la 17e session du groupe mixte algéro-français prévue en mai 2021 pour la prise en charge définitive des opérations de réhabilitation des sites de Regan Ined Eker, a précisé ce haut gradé algérien. Le président rwandais Paul Kagame a décrié la réticence de certains pays comme la France à traduire en justice les suspects du génocide rwandais lors d'une cérémonie marquant la 27e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis. Le pays d'Afrique centrale a entamé mercredi la commémoration nationale annuelle de plus d'un million de victimes qui dure de 3 mois, dont une semaine de deuil au début. Plus de 500 Rwandais, amis du Rwanda et membres du corps diplomatique, se sont réunis dans le complexe sportif couvert de Kigali Arena pour la cérémonie qui a invité moins de personnes que les années précédentes en raison de la pandémie de COVID-19. Les suspects du génocide bénéficient d'un refuge et le demande d'extradition du Rwanda ont été refusées dans plusieurs pays dont la France, a déclaré M. Kagame, ajoutant que certaines affaires durent depuis environ 15 ans dans les pays européens et africains sans avoir été jugées.
mais ce Kagame a déclaré que certains pays ont accueilli 4 ou 5 suspects du génocide dont les dossiers sont clairs, mais ils ont refusé de les extrader vers le Rwanda. En Côte d'Ivoire, l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé coïncide avec le procès de l'attaque de Bouaké. Le président ivoirien Alassane Ouattara a donné mercredi 7 avril son feu vert au retour en Côte d'Ivoire de son grand rival, l'ex-président Laurent Gbagbo, et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, quand il le souhaite, une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Le président Alassane Ouattara a également déclaré que les deux personnalités ivoiriennes peuvent maintenant rentrer au pays. Mais ce Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand il le souhaite, a déclaré le président Ouattara à l'ouverture du premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement. Le président ivoirien promet que les frais de voyage de Laurent Gbagbo et ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le président ivoirien ajoute que des dispositions seront également prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République. Concrètement, Laurent Gbagbo bénéficiera d'une allocation viagère de personnel comme des agents de sécurité et des collaborateurs payés par la présidence de la République. La ministre libyenne des Affaires étrangères effectue une visite surprise en Tunisie. La ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, est arrivée en Tunisie pour une visite qui n'avait pas été annoncée auparavant, selon une source du ministère des Tunisiens des Affaires étrangères, sous couvert de l'anonymat. La même source a précisé qu'il s'agissait du premier voyage de la ministre libyenne depuis son arrivée à la tête de la diplomatie du gouvernement d'union nationale dirigée par Abdulhamid Debaibar. Des consultations sont prévues entre la ministre libyenne et son homologue tunisien Ousmane de Gerandi sur les relations bilatérales. Il convient de noter que cette visite intervient une vingtaine de jours après la visite du président tunisien dans la capitale libyenne Tripoli, le 17 mars, première visite officielle d'un chef d'État tunisien en Libye depuis 2012. L'insécurité alimentaire s'accroît au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Selon le dernier rapport du réseau de prévention des crises alimentaires, 27 millions de personnes pourraient être en situation de crise d'ici juin 2021. L'insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest progresse avec 19,6 millions de personnes en situation de crise actuellement, un nombre qui devrait bondir cet été, averti le réseau de prévention des crises alimentaires pour la région. Pour juin et août 2021, des périodes de soudure entre les récoltes, les différents acteurs de ce réseau réunis jeudi en visioconférence s'attendent à ce que 27,1 millions de personnes se retrouvent en besoin d'assistance immédiate, soit plus de 9% de la population des 14 pays étudiés. Les principaux foyers d'insécurité alimentaire aiguë se situent dans des zones de conflit et de violence, selon les experts. Barrage de la Renaissance, l'Éthiopie s'oppose à l'Égypte et au Soudan. 170 mètres de haut, près de 2 km de long. Ce méga-barrage sera la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. L'Éthiopie est sur le point d'achever ce projet phare de son développement économique. Mais le pays ne parvient pas à résoudre la discorde avec ses voisins, l'Égypte et le Soudan, qui craignent pour leur approvisionnement en eau. Appelé le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne, l'ouvrage dont la construction a débuté il y a 10 ans se situe sur le Nil Bleu, un cours d'eau qui rejoint à Khartoum le Nil Blanc et qui fournit 60% du débit du Nil. Depuis plusieurs années, d'âpres négociations sont en cours pour trouver un terrain d'entente entre les trois pays. L'Union africaine a pris le dossier en main. Des pourparlers ont eu lieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais se sont soldés par un nouvel échec. Parmi les principaux points de blocage, il y a la manière dont le barrage sera géré au cours des différentes périodes de sécheresse, ce qui revient à savoir quelle quantité d'eau de l'Éthiopie serait prête à relâcher du réservoir du barrage. Il y a aussi le problème du règlement des différends. S'il y a un désaccord, le Soudan et l'Égypte veulent un arbitrage international dans la phase finale du processus de résolution des conflits. L'Éthiopie n'est pas disposée à l'accepter. Elle estime qu'un tel arrangement est inapproprié, explique en fait William Davison, spécialiste de l'Éthiopie. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.